Merci pour ce parcours dans la reconnaissance. Il nous rappelle aussi où sont nos vrais appuis et les sujets de notre vraie joie. Merci aussi aux musiciens de nous avoir accompagnés. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu que nous méditons ensemble. Nous poursuivons de culte en culte l'épître de Paul aux Philippiens. Il y a quelques dimanches, nous avions considéré ensemble cet hymne magnifique que l'apôtre Paul a composé pour rappeler le mouvement du Christ vers nous qui s'est humilié, qui n'a pas regardé ses prérogatives divines comme quelque chose à conserver, mais qui est descendu jusqu'à nous pour être ensuite élevé et recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Paul continue parce qu'il faut revenir ensuite sur la terre et il applique aussi aux chrétiens quelques conséquences de ce qu'ils ont entendu. Et nous lisons donc dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites toutes choses sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour du Christ de n'avoir couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en serai heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Jusqu'ici, notre lecture. Une chrétienne d'un certain âge rêvait d'aller à Jérusalem. Elle voulait, disait-elle, mettre ses pas dans les pas de Jésus. Ses enfants, adultes, lui ont donc fait une boîte sur laquelle ils ont écrit « Jérusalem ». Et chaque fois que les enfants venaient la voir, ils glissaient un petit billet dans la boîte en vue du grand projet d'aller marcher sur les pas de Jésus à Jérusalem. Mais leur mère est toujours en train d'aider quelqu'un. Et quand il faut aider, qu'est-ce qu'elle fait? Elle puise dans la boîte en disant « Tant pis, au lieu d'aller cette année, j'irai l'an prochain. » Et le temps passe ainsi. Et la voilà atteinte d'une maladie qui ne lui permet plus d'envisager un long voyage. Elle dit « Je ne marcherai jamais là où le Christ a marché. » C'est ce qu'elle dit lors d'une rencontre de famille. Alors un de ses fils se lève, la reprend tendrement, lui dit « Maman, nous avons vu cette boîte. Nous avons vu la façon dont elle a servi, déjà ici, avec cette boîte, pendant toutes ces années, tu as mis tes pas dans ceux du Seigneur Jésus. » Que signifie pour nous marcher dans les pas de Jésus? Il est notre Sauveur. Il s'est abaissé vers nous, il s'est donné pour nous. Il a été élevé, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Que signifie pour nous marcher dans les pas de Jésus? C'est à ce point que se trouve l'apôtre Paul dans la lettre qu'il écrit aux Philippiens. Il leur a composé cet hymne magnifique sur Jésus, sur son mouvement vers nous, son abaissement pour nous. Et il avait pour but de réveiller leur disposition les uns à l'égard des autres. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est dans ce but qu'il a décrit ce mouvement du Seigneur Jésus venu vers nous. Mais maintenant qu'il a décrit ce que Jésus a fait, maintenant qu'il a montré son amour vertigineux, son élévation ultime, il ne peut plus se contenter d'une simple application au domaine des relations entre chrétiens dans l'Église. C'est toute la vie reçue de Jésus, qui doit être marquée par le Christ. Et il s'agit de découvrir dans toute notre vie ce que signifie réellement marcher dans les pas de Jésus. Et Paul fait donc, à la lumière de l'exemple du Christ, une sorte de tour d'horizon de différents aspects de la situation des chrétiens de Philippe. Et il commence par un premier mot. « Ainsi donc, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi. » Ouh ! La première impression est que l'on redescend d'un coup. L'exemple de Jésus, c'est quelque chose qui saisit, c'est quelque chose qui motive, qui peut éveiller en nous toutes sortes de dispositions positives. Et là, brusquement, un appel à l'obéissance. La chute semble dure. Sauf que, avec l'exemple de Jésus, le mot obéissance a pris une noblesse et une beauté magnifique. Il s'est rendu, lui, obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix, c'est ce que Paul avait dit. Cette obéissance, c'est l'obéissance au Père. C'est aussi la volonté d'entrer pleinement et jusqu'au bout dans le plan du salut que le Père a forgé et dans lequel le Fils adhère pleinement et se donne pour le réaliser. Son obéissance, c'est une parfaite union de pensée et d'intention avec le Père. Son obéissance, c'est une adhésion en acte et des actes qui ont du poids. Le mot obéissance devient tellement beau, tellement noble ici. Et c'est avec cet exemple du Christ que Paul rappelle aux Philippiens, « Vous qui avez toujours obéi. » Or, il ne précise pas à qui ils ont obéi. Il dit, vous tous qui avez toujours obéi lorsque j'étais présent. Et maintenant que je suis absent, il faut le faire d'autant plus. Vous avez d'autant plus de raisons. Ce qui veut dire que l'obéissance concerne d'une certaine façon l'attention à ce que Paul a dit autrefois et va dire maintenant. Mais Paul ne dit pas, comme vous m'avez toujours obéi. Paul dit, comme vous avez toujours obéi. L'obéissance dont il est question est obéissance à Dieu, dont l'apôtre transmet la parole. Paul ne revendique pas l'obéissance pour lui-même, mais l'obéissance pour Dieu, à la lumière de l'obéissance pleine et entière du Christ. Comme vous avez toujours obéi, continuez à le faire. Entrez dans les projets de Dieu. Ayez à cœur de faire sa volonté. Imitez Jésus dans cette magnifique attitude qui a été la sienne et que vous avez déjà manifestée à soin de relever l'apôtre. Et je dirais qu'il s'agit pour nous aussi de savoir valoriser ce mot « obéissance » comme un mot noble par rapport à Dieu. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux me soumettre à tes voies. Je veux entrer dans tes projets. Ce n'est pas courber l'échine dans la résignation, c'est une adhésion volontaire dans l'amour, dans la confiance, dans l'espérance. Mais que demande Paul après avoir rappelé l'exemple et l'œuvre de Jésus? Mettez-vous en œuvre votre salut, dit-il, avec crainte et un profond respect. Ce n'est plus « ayez les dispositions qui étaient en Jésus-Christ » pour vos actions, mais c'est « mettez en œuvre votre salut ». La première réalité qui s'impose après qu'on ait rappelé ce que Jésus a fait, c'est le don qu'il nous a donné, qu'il nous a fait un don plein de grâce, plein de générosité, un don immense, le salut, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Et pour l'apôtre, quand il parle du salut, c'est toujours quelque chose de bouleversant. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Être sauvé, c'est devoir tout à Dieu. C'est tout devoir au Seigneur. C'est être ébloui devant cette grâce, devant ce cadeau. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Ce don, dit l'apôtre, c'est aussi un don personnel. Et c'est intéressant que Paul dit « mettez en œuvre votre salut » et littéralement c'est votre salut à vous, un don personnel, mais qui exige aussi une foi personnelle, une ouverture personnelle au Christ pour recevoir son pardon et sa vie. Mais ce salut, c'est votre salut à vous, dit l'apôtre. Autrement dit, quand on ouvre ainsi sa vie au Christ, on reçoit du Christ la vie éternelle comme un don personnalisé. C'est mon salut à moi, non pas parce que je l'ai gagné, non pas parce que je l'aurais mérité, mais parce que je l'ai reçu très personnellement du Christ, comme un cadeau entre lui et moi. Je te l'ai acquis, je le donne. Votre salut, votre propre salut, dit l'apôtre. Mais ce salut, quand on considère l'œuvre du Christ et son don total, ce salut, je ne peux pas me dire simplement « tout va bien, je l'ai ». Ce salut, Paul nous dit, si vous avez compris l'amour du Christ, mettez-le en œuvre. Faites-le travailler, faites-le fructifier. Alors certains ont voulu comprendre cette expression comme si Paul disait « travaillez à votre salut ». Travaillez en vue de recevoir votre salut, en vue de réaliser votre salut. Mais lire le texte de cette façon, c'est amener Paul à se contredire. Lui qui a passé toute sa vie à se battre, à souffrir, à être emprisonné même, pour défendre cette idée complètement révolutionnaire, que justement le salut, on ne le gagne pas soi-même, mais il nous est acquis uniquement par ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Ce n'est donc pas travailler à votre salut, mais c'est faites travailler votre salut. Faites produire du fruit au salut que vous avez reçu. Mettez-le en œuvre. Il y a là un message très important. Nous recevons très personnellement le don du salut en Jésus, mais ce don n'est pas simplement une possession dont on pourrait profiter un petit peu égoïste en dorlotant le cadeau et en se disant « je l'ai, c'est bon, tout est acquis ». Ce salut, je dois avoir à cœur qu'il produise quelque chose pour Dieu, qu'il se traduise en œuvre, qu'il se traduise en engagement, qu'il se traduise en progrès, tout comme l'amour du Christ s'est traduit en mouvement et en don vers nous. Car le salut, selon Dieu, ce n'est pas simplement le don de la vie éternelle, c'est aussi une œuvre que Dieu a commencée en nous. Et cette œuvre, il a envie de la voir grandir, de la voir se développer. Il voudrait vraiment qu'elle porte du fruit. Et je dirais, si nous pensons notre vie à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, cela doit nous conduire à nous demander que pourrais-je faire, que pourrais-je être pour que ce salut reçu produise quelque chose, qui honore le Seigneur, produise quelque chose qui lui fasse plaisir. Que pourrais-je faire, que pourrais-je être pour que ce salut reçu produise quelque chose qui rejaillisse sur les autres, qui leur apporte quelque chose? Comment marcher dans les pas de Jésus en ayant tout reçu de lui? Comment le faire à ma façon? Comment le faire à mon niveau? Mettez en œuvre votre salut. Nous chantons souvent la joie du salut, mais nous devons aussi apprendre à demander, Seigneur, fais que cela me change, fais que cela rejaillisse sur mon prochain. Que tu aies de la joie avec moi, que d'autres reçoivent à cause de ce que j'ai reçu moi-même le premier de toi. Notre salut n'est pas une bulle, notre salut est un tremplin. Il doit nous lancer plus loin pour le Seigneur et pour les autres. Comment cela? Les objectifs qui nous sont donnés par la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, les progrès vers une vie sainte, vers une vie où nos valeurs et notre manière d'être correspond à ce que Dieu aime, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut. Une vie où l'on a des victoires sur le mal, sur le péché qui est en nous. Des progrès aussi vers une vie belle, où l'exemple du Christ façonne nos réactions, notre caractère, nos engagements. Et cela demande notre engagement. Et cela demande notre vigilance. et cela demande notre volonté. Parfois des combats où il faut résister au mal, à la tentation, au découragement. Travaillez. Mettez en œuvre votre salut. Il y a un effort là que personne ne fera à notre place. Il y a des attitudes qu'il nous faut choisir, nous. Il y a des indolences. Il nous faut vaincre. Il y a des négligences auxquelles il nous faut être vigilants. Il y a des décisions auxquelles il nous revient de donner consistance. Faites travailler votre salut. Mettez en œuvre ce salut. Et pour cela, nous dit l'apôtre, nous avons besoin à la fois de vouloir et de faire. Il faut la volonté pour porter notre action. Et il faut le faire pour ne pas rester simplement dans les bonnes intentions. Comment cela est-il possible? Paul ici a une belle expression, une expression magnifique. « Mettez en œuvre votre salut, dit-il, faites-le travailler, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. » Autrement dit, nous ne serons jamais seuls lorsqu'il s'agira de traduire en action le salut reçu de Dieu. Ce salut est aussi une vie nouvelle que Dieu développe en nous par son esprit. Et nous pouvons compter sur cette action de Dieu en nous, tout comme nous avons à recevoir les impératifs qui nous poussent à agir nous-mêmes. Déjà au début de l'Épître, Paul avait souligné que le Seigneur est pleinement engagé dans ce qu'il a commencé dans notre vie. La bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il en poursuit l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'est ce qu'il disait au premier chapitre, au verset 6. Mais maintenant, Paul va plus loin et nous dit comment cela peut se réaliser. Au plus intime de nos ressources, le Seigneur veut produire, veut renouveler, veut fortifier en nous le vouloir et le faire. C'est l'œuvre de son esprit, c'est une œuvre vivifiante, une œuvre qui renouvelle. Il y a là une affirmation, l'affirmation que Dieu travaille en nous. Que Dieu est actif, il ne dort pas. Nous oublions parfois, lui n'oublie pas. Nous reculons parfois, lui persévère. Présence en nous est active. Dieu ne lâche rien. Il réalisera son dessein bienveillant. Nous devons compter sur cette action. Il produit en nous le vouloir et le faire. Mais comment le fait-il? Il ne le fait pas comme une sorte d'assurance tranquille. Mais plutôt comme une promesse qui nous bouge. Dieu produit en vous le vouloir et le faire, c'est une promesse qui nous bouge. Car la ligne, c'est de dire « Agissez, mettez en œuvre votre salut, car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. » L'impératif est entier, agissez. Mais pour accomplir cet impératif, je peux compter sur l'action de Dieu. Et Paul fait ici un lien très intéressant, très subtil, entre l'action de Dieu et notre responsabilité. On entend parfois la formule pour dire la relation entre ce qu'il faut attendre de Dieu, ce qu'il faut faire par nous-mêmes. Une formule qui dit, il faut prier comme si tout dépendait de Dieu, puis agir comme si tout dépendait de nous. On dirait là, on valorise l'action de Dieu et la responsabilité humaine. Prier comme si tout dépendait de Dieu, puis agir comme si tout dépendait de nous. Cette formule valorise l'action, l'impératif, et c'est bien. Et je crains que parfois, il nous arrive d'attendre un petit peu trop que Dieu fasse, ou que ça se fasse, alors que Dieu nous invite, nous, à la responsabilité. Et donc c'est bien de rappeler que nous avons aussi vraiment à agir, même si nous demandons à Dieu de prendre sa part. Mais cette formule qui dit « il faut prier comme si tout dépendait de Dieu, puis agir comme si tout dépendait de nous », elle pêche gravement, parce qu'elle suggère que justement, pour l'action, nous sommes livrés à nos propres ressources, que nous sommes laissés tout seuls pour agir. Paul souligne le contraire. Il nous dit « c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire ». Chaque fois que tu avances, Tu vas pouvoir découvrir que Dieu crée et renouvelle en toi le vouloir et le faire dont tu as besoin justement pour avancer, justement pour entrer dans ses projets. Nous ne sommes jamais seuls dans l'action à accomplir. Au moment où j'agis, au moment où je me lance, au moment où j'affronte une situation, je suis accompagné par le Seigneur. Je suis soutenu par le Seigneur. Je suis renouvelé en son esprit. Il produit, il alimente, il énergise en moi le vouloir et le faire. Et je peux compter sur lui pour cela. Nous pouvons compter sur lui dans l'action. Parfois aussi, c'est avant d'agir qu'il nous faut être renouvelés. Il arrive, par exemple, que nous sachions très bien ce que Dieu veut pour nous, mais que franchement, nous n'en avons pas envie. Arrive. Je sais que Dieu veut que je pardonne telle personne, mais franchement, je préfère garder ma rancune et cultiver mon amertume. On connaît ce genre de situation. Que faire alors? Il me semble qu'une première étape est de prier sincèrement dans la ligne de ce que Paul dit ici. Seigneur, tu sais que j'ai pas envie, mais crée en moi le vouloir et le faire, selon ta promesse. Crée en moi, renouvelle en moi le vouloir et le faire. La force de cette prière, me semble-t-il, c'est qu'elle dit, crée en moi le vouloir. Nous demandons tous à Dieu, Seigneur, crée en moi le faire. Seigneur, fais que je pardonne. Fais que ça me tombe dessus et que ça marche tout seul. Le faire, on le demande à Dieu. Mais demander, crée en moi le vouloir. Ça veut dire, fais que je veuille pardonner à cette personne à qui, pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de pardonner. Fais que je veuille aimer cette personne qui m'horripile par tous les aspects de mon être. Fait que je veuille m'atteler à cette tâche que je fuis et que je reporte depuis des jours, depuis des semaines. C'est ça, créer le vouloir. Fait que je veuille m'engager. Ça veut dire changer les dispositions. Ça veut dire changer les attitudes. Ça veut dire aller au fond des choses. Aller au fond de moi. Et nous devons apprendre à dire à Dieu sincèrement face à toutes sortes d'endroits de notre vie où nous nous sentons en difficulté, en réticence, en décalage. Seigneur, crée en moi le vouloir. Fais que je veuille aller dans le sens de ce que toi tu veux. Ce qui veut dire concrètement, ne me laisse pas tranquille sur cette question jusqu'à ce que j'aie la bonne attitude, celle que tu veux de moi. Ça m'arrive parfois de prier comme ça, de dire « Seigneur, ne me laisse pas tranquille jusqu'à ce que j'en sois en harmonie avec ce que tu veux que je fasse. » Et quand Dieu aura travaillé sur mon vouloir, le faire viendra lui aussi. Mais pas comme quelque chose qui me tombe d'en haut en disant « Tiens, ça se fait, tiens, ça marche. » Mais comme quelque chose que j'aurais voulu, que j'aurais choisi, où je serais impliqué. Moi tout seul, oh que non. Sans le Seigneur, jamais je n'aurais pu avoir ces dispositions. Mais parce que Dieu a travaillé sur mon vouloir, je découvre en moi maintenant de nouvelles dispositions. Et elles me poussent à faire pour que je puisse avancer. Et pour ce faire, je peux aussi compter sur Dieu. Dieu crée en nous le vouloir et faire. Travaillez, mettez en œuvre votre salut parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est vraiment le moteur du changement dans notre vie. Et Dieu sera toujours au rendez-vous là où sincèrement nous nous plaçons devant lui pour qu'il transforme ses ressorts vitaux de notre vie intérieure et de notre action responsable. Sur quoi débouche cette mise en action de notre salut, portée par l'action de Dieu en nous il produit en nous le vouloir et le faire. Là encore, Paul a quelques belles expressions que je souligne rapidement. En ce qui concerne l'action, Paul ne donne pas un catalogue de ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre notre salut. Il dit plutôt comment nous sommes invités à agir. Et il dit, faites toutes choses sans murmure ni contestation. Toute chose désigne certainement ce que Dieu demande de nous, mais vous avez vu l'importance de la manière dont on agit. Faites toute chose sans murmure. Les murmures, ce sont ces paroles où l'on rouspète sans cesse, où l'on n'est jamais content, où l'on critique les autres, où on râle sur tous les détails. On vient, on répond présent, mais intérieurement, on n'est pas dans les bonnes dispositions. Le vouloir n'est pas ajusté à l'action. Et du coup, le vouloir se saisit de l'action pour exprimer toutes les frustrations personnelles. Et ça se traduit ensuite par toutes sortes de discussions, de contestations. On discute non pas pour faire avancer les choses, mais on pinaille sur des détails juste pour montrer qu'on n'est pas bien avec ce qu'on fait. Paul nous dit, ce que Dieu veut produire en vous, c'est autre chose que cela. Dieu veut unifier votre vouloir et votre faire pour réaliser son dessein. Jésus n'est pas venu sur la terre en râlant de devoir être là. C'est pas comme ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu sur terre en râlant de devoir être là. Jésus a choisi de venir, quand il a choisi de se donner, il a assumé ce choix. Et parce qu'il l'a pleinement assumé, ce choix, il a pu aussi injecter dans sa venue le meilleur de lui-même. Notre modèle, il est là. Une manière d'agir unifiée, où l'on peut mettre son cœur vraiment, parce que les choix sont clairs. Faites toute chose, sans murmure ni contestation. La deuxième expression de l'apôtre est redoutable. Afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Irréprochable et pur. Les deux mots ensemble expriment l'idée de cohérence. Irréprochable, c'est ce qui ressort de l'action. Pur, c'est les motivations. Le lien entre les deux, c'est la cohérence. Nous sommes appelés à vivre une vraie cohérence entre nos actions et nos motifs. Mais la cohérence, on peut l'imaginer à plusieurs niveaux. Des gens qui disent, je mets des ambitions assez basses, comme ça je pourrais rester cohérent entre mes actions et mes ambitions. Lorsque Paul emploie le mot irréprochable et pur, il nous rappelle que nous devons viser avec l'aide de Dieu une cohérence élevée. Une cohérence qui nous amène à vivre vraiment comme des enfants de Dieu dans la société où nous sommes. Et nous avons besoin là aussi, là encore, de toute la grâce de Dieu pour renouveler notre vouloir et notre faire. Ne mettons pas la barre trop bas. Ne mettons pas la barre trop bas en ce qui concerne la cohérence. Il vaut mieux être un petit peu inconfortable et pousser vers le haut. Bon, il faut pas non plus mettre des barres trop hauts qui nous écrasent complètement. Il faut trouver la façon dont on peut avancer pour aller de progrès en progrès. Irréprochable et pur quand même, garder ses objectifs de vie. Et la clé, ce qui nous permettra de nous donner des repères, ce sera toujours de dire où est-ce que mon attitude me rapproche d'une certaine façon de celle du Seigneur Jésus. C'est toujours cela qu'il faut chercher. Donc deuxième invitation, une cohérence qui garde ses valeurs. Troisième expression de l'apôtre nous rappelle ce que nous pouvons apporter à ceux qui nous entourent. Nous avons la parole de vie. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui est la meilleure nouvelle que l'on puisse à la fois annoncer ou recevoir. Et mettre en œuvre notre salut, c'est nous rappeler que nous l'avons, ce trésor du salut. Nous mesurons ce qu'il signifie, ce salut, Nous savons tout ce qu'il représente de beauté, de grâce de Dieu. C'est aussi quelque chose que nous voulons offrir à ceux qui nous entourent. Et nous voulons que ce trésor d'autres puisse en profiter. Il nous faut demander là aussi à Dieu l'aide pour que nous puissions avoir le vouloir et le faire pour que ce que nous avons reçu d'autres puissent l'entendre, le recevoir. Et puis la dernière marque de la mise en œuvre de notre salut dans ce texte, elle nous est laissée par l'exemple de Paul, qui dit à la fin du passage qu'il est prêt à laisser sa vie, si nécessaire, pour le service de la foi de ses frères et sœurs, et qui dit aussi qu'il envisage ce don avec joie. Et nous avons ici un quatrième trait d'une vie où on met en œuvre son salut, c'est cette idée d'une vie qui soit offerte, d'une vie qui soit ouverte, où l'on sait se donner et on sait le faire avec joie. Alors nous n'avons pas tous à aller jusqu'au sacrifice de notre vie, comme l'apôtre Paul qui était prêt, qui devait envisager cette possibilité pour lui très concrètement. Mais parfois pour nous c'est le don de notre temps qui est en cause, c'est le don de notre énergie, le don de certaines capacités que nous voulons mettre au service de Dieu, au service de son œuvre. Il est important d'avoir cette vie ouverte, cette vie qui est vraiment dans le don. Moi, je suis reconnaissant et encouragé chaque fois que je vois chez quelqu'un, l'un ou l'autre dans l'Église. Une vie ouverte, où l'on se donne, on prend du temps pour l'œuvre de Dieu, et on le fait aussi avec joie, pas comme si on faisait quelque chose d'immense, mais juste avec la reconnaissance d'apporter au Seigneur quelque chose, lui qui nous a tout donné. Jésus, en tout cas, nous apprend qu'il n'y a pas d'autre chemin pour vivre selon Dieu, pour vivre dans l'amour. Mais le rayonnement de sa personne et sa résurrection triomphante nous disent aussi que c'est un chemin que Dieu honore, qu'il le parsème de sa joie et qu'il le couronnera d'une joie éternelle. Comment donc répondre à ce que Jésus a fait pour nous ? Mettez en œuvre votre salut, nous dit l'apôtre. Faites travailler ce salut selon les lignes qu'il nous laisse. Que nous ayons à cœur de traduire dans l'action concrète notre reconnaissance pour ce don inestimable. Que nous ayons à cœur de traduire par notre action concrète la valeur que nous accordons à ce don qui nous a été fait en Jésus-Christ. Laissons Dieu nous bousculer un peu. Laissons-le aussi nous unifier en travaillant sur le vouloir et sur le faire. Et ainsi, là où nous nous trouvons, car c'est là que se font les choses, marchons sur les pas de Jésus. Amen.